Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Évidemment, ça a fait causer un max aujourd'hui puisqu'on a appris que l'action du copilote de l'A320 s'apparente à une volonté de détruire cet avion, pour reprendre les termes du Monde.fr. S'apparente donc, mais personne n'est a priori sûr de rien dans cette histoire, ni comment, ni pourquoi, et pourtant, de nombreux articles très alimentés fleurissent déjà comme celui-ci pris au hasard. Qui est Andreas Lubitz, le copilote qui a précipité l'A320 dans la montagne? Ou encore celui-là, crash de l'A320, ce que l'on sait d'Andreas Lubitz. CV largement décrit, photo de profil Facebook en pleine page et ce tweet de France Télé Info qui tombe à 14h34. Si l'on en croit sa page Facebook, supprimée depuis mais toujours visible en cache, Andreas Lubitz aimait David Guetta et Burger King. De l'info pure, dure, vérifiée et éclairante comme on l'aime.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez Pierre Cerciron, coordinateur de projet dans l'association Les Petits Débrouillards. Il est parti actuellement à Tunis à l'occasion du Forum Social Mondial. Mais d'abord, sur quelle page tombez-vous quand vous tapez votre nom dans une barre de recherche? Des photos compromettantes apparaissent-elles? Comment gérer votre e-réputation? On en parle tout de suite.
C'est la chronique e-réputation, jingle. Alors on va aujourd'hui fouiner sur la toile pour chercher, à votre avis, qui de Vanessa ou de Geoffrey a le plus de fans sur la toile, sur les réseaux sociaux?
Geoffrey, je dirais Geoffrey, il est connu depuis bien avant.
Geoffrey et Marie, c'est devenu maintenant, c'est Bonnie and Clyde.
C'est vrai, fin du suspense, il y a eu Secret Story, il y a les Anges 4, vous connaissez depuis longtemps. Geoffrey, 70 510 fans, c'est énorme. Alors maintenant, on va chercher les mots qui correspondent, qui sont les plus souvent associés à votre nom sur Google, sur les moteurs de recherche. Alors les mots qui ressortent le plus souvent sur notre copine Vanessa, à votre avis? Regardez les mots que j'ai trouvés, tentatrice, M. Pokora et Balotelli.
La irréputation expliquée par Nicolas Touderde sur Énergie 12 dans l'émission Le Mag Les Anges. Voyons si on peut faire mieux ce soir avec Pierre Leget. Bonsoir.
Bonsoir Tiffaine.
Vous êtes chef de projet digital au sein du groupe Findis à Angers. Vous tenez un site www.pierre-leget.com sur lequel vous dispensez des conseils en web marketing et en irréputation. Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Avec vous en studio, Tristan Gastinel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes apprenti community manager puisque vous êtes stagiaire à FH Conseil, une agence de communication B2B qui accompagne les enseignes. Merci c'est également. Ça. Et bonsoir Maxence Henry.
Bonsoir Tiffaine.
Vous êtes directeur de l'Institut McLuhan de l'IRCOM, une école de communication à Angers qui dispense un Master 2 manager de projet communication option e-réputation. Pourquoi avoir choisi d'avoir ouvert cette filière à l'Institut McLuhan?
Tout simplement pour répondre à un besoin très fort des entreprises. En fait, à l'IRCOM, on essaie d'être très, très lié en permanence avec le monde de l'entreprise et d'être à l'écoute du marché. Et on se rend compte que depuis de nombreuses années, les PME particulièrement, mais aussi les groupes, sont tout à fait démunis par cette question de la e-réputation parce qu'ils ne savent pas comment l'aborder, comment le traiter. Le web leur fait un peu peur en définitive. Et donc, ils nous ont demandé d'avoir des communicants qui sachent aussi gérer la e-réputation de l'entreprise. Comment on fait? Parce que nous, on ne sait pas. Et ils prennent conscience que si eux ne s'en occupent pas, d'autres le feront à leur place. Et donc, on ne peut plus faire l'impasse là-dessus. Et c'est vraiment pour répondre à ce besoin pressant, eh bien, qu'il y a maintenant 3 ans, nous avons mis en place cette spécialisation en e-réputation.
Alors, pour comprendre ce que c'est la e-réputation, l'e-réputation, on va faire un petit exercice de vocabulaire et décomposer le mot e-com. Internet et réputation comme réputation. L'e-réputation, c'est donc la réputation sur Internet. Vous avez parlé de la réputation des entreprises. On va peut-être commencer par parler de la réputation, de l'e-réputation des personnes, de vous et moi. Qu'est-ce que ça recouvre exactement?
Alors,
Pierre Leget.
L'e-réputation, en fait, c'est en deux phases. Puisqu'il y a l'e-réputation qu'on va créer soi-même et l'e-réputation qui va être créée par les autres sur le web. Donc il y a vraiment deux choses à surveiller. Tout d'abord, surveiller ce qu'on poste sur le web, puisqu'on peut poster avec le monde entier, ou alors poster avec certains types de personnes. Donc ça va être deux choses à faire attention. Et ensuite, qu'est-ce que l'on dit de nous sur Internet? Ça, c'est la phase qui va être le plus difficile à contrôler, puisqu'on ne peut difficilement empêcher une personne de parler d'une autre personne, ou même d'une autre entreprise.
Alors, parlons d'abord de ce que nous, on peut gérer, ce qu'on poste. Alors, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par quoi d'autre?
Alors, actuellement, je pense que c'est effectivement les réseaux sociaux qui sont le plus utilisés, avec Facebook, Twitter, Google+, ou autres réseaux sociaux. Et également à l'aide de blogs ou de sites internet. Puisque maintenant, il est très facile d'ouvrir un blog avec, par exemple, WordPress ou via un Tumblr. Et on peut parler de soi, de ses passions, de ses envies ou même de son travail.
En fait, c'est tout ce qu'on met sur le web, en définitive, qui procède de la réputation numérique.
Et qui comporte notre nom aussi.
Et qui comporte notre nom.
Notre nom, enfin, parce qu'on peut être. On peut poster du contenu qui nous concerne, mais si on est sous couvert d'anonymat. Au final, ça concerne pas directement notre réputation. Mais
c'est-à-dire qu'il y a aussi des photos, parce qu'on peut faire de la reconnaissance faciale, il y a des vidéos, il y a effectivement tout entre en ligne de compte. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'en fait, on a un rôle aussi très majeur de formation des jeunes. Parce qu'à 14, 15 ans, on ne se rend pas forcément compte de la portée d'un Facebook ou d'un Twitter ou d'un Instagram ou ce qu'on veut. Et donc, il faut les former. Et c'est vrai que, moi, à titre tout à fait d'exemple, j'essaie de le faire avec mes propres enfants. Je dirais, mais ayez conscience que tout ce que vous mettez, c'est mondial. Donc est-ce qu'on a envie que la photo que l'on met, que le tweet que l'on va poster, que l'histoire qu'on va raconter, le monde entier la connaisse et y ait accès? Et c'est vraiment, je pense, un peu peut-être la première question à se poser. Est-ce que j'ai envie que le monde entier sache ce que je viens de mettre?
Oui, tout à fait, parce qu'il est facile de poster, mais beaucoup plus difficile ensuite d'effacer tout ce qu'on a mis. Puisque le web garde toutes les infos.
Pour rebondir sur ce que vous avez dit, Tristan Gastinel, ça veut dire que si moi je poste quelque chose sous un pseudo, il n'y a aucun moyen, personne, même pas le meilleur geek du monde, n'arrivera à remonter jusqu'à ma véritable identité?
Non, c'est pas impossible. Je pense qu'il faut partir du principe que de toute façon, si c'est complètement privé, c'est vaut mieux ne pas le poster du tout que de le poster sous un pseudo. Après, je pense que c'est quand même une sécurité qui est assez facile d'accès. Et ça va assez vite. Au final, les gens le comprennent très rapidement quand on regarde sur Facebook. Plein de gens qui, sans forcément se soucier de leur irréputation, vont changer leur nom sur Facebook pour pas que tout ce qu'ils postent dessus, qui est vraiment en lien avec leur vie privée, soit directement lié à leur nom-prénom. Moi, c'est mon cas. J'ai mon compte Facebook personnel. C'est pas mon vrai nom qui est écrit dessus. C'est un jour de pseudonyme. Mais je sais que si on cherche un petit peu, on peut quand même tomber dessus. Un futur employeur, par exemple, pourrait tomber dessus sans problème s'il décidait de chercher un petit peu.
Surtout que, comme disait Pierre, ce qui est important aussi, c'est que nous, on peut essayer de faire le maximum pour garder notre réputation, mais il y a aussi les autres. Et même si j'ai un pseudo, si on poste une photo de moi dans une situation compromettante et qu'on y met mon nom, le lien sera fait pour peu qu'en plus la photo soit prise sur le profil, même s'il est sous pseudo. Donc c'est effectivement un premier rempart, mais c'est pas un rempart suffisant.
Ouais. Alors justement, les autres, parlons-en. Qu'est-ce qu'ils peuvent poster sur nous, des photos, effectivement, sur lesquelles ils nous identifient? Quoi d'autre?
Alors on peut quand même le refuser, remarquez néanmoins. Mais encore faut-il qu'on s'en intéresse et qu'on s'en inquiète. Mais on peut refuser qu'une photo soit taguée à notre nom. Bon.
Mais on ne peut pas empêcher une personne de poster une photo de nous. Par contre, on peut demander, par exemple, sur Facebook, si une photo compromettante de soi est postée, on peut demander à Facebook de la retirer. Et généralement, ces demandes-là sont souvent acceptées par Facebook et les photos sont ensuite retirées.
Mais peu le savent, donc peu le font.
Tout à fait.
Ou bien on le fait quand on est vraiment confronté à une situation très compromettante, qu'on est déjà un peu dans l'œil du cyclone et que là, on dit... Qu'est-ce que je peux faire?
C'est souvent trop tard.
Et puis des gens aussi pensent que rien qu'en enlevant le tag, l'identification, la photo est supprimée. Il y a plein de gens qui pensent ça aussi, un peu naïvement, j'aurais envie de dire.
Parce que, alors que la photo n'est jamais.
Oui, la photo est encore là et les gens pensent que vu qu'il n'y a plus leur nom collé dessus, ça va. Mais au final, la photo est toujours là sur le profil de la personne qui l'a postée et ça reste accessible encore.
La première situation à laquelle on pense quand on pense irréputation, c'est peut-être l'embauche. On envoie notre CV, puis l'employeur va aller googliser notre nom, puisqu'on dit googliser. Qu'est-ce qu'il regarde, l'employeur, quand il cherche... qu'est-ce qu'il cherche, en fait, quand il googlise un...
En fait, très clairement, il cherche à savoir ce qu'il y a derrière la personne, le CV qu'il reçoit. Et c'est vrai que c'est un exercice que nous-mêmes on fait quand on recrute nos étudiants, mais pas systématiquement, mais on le fait de temps en temps. C'est intéressant de tout de suite savoir. Alors, si vous recrutez, je dis n'importe quoi, un directeur commercial ou un responsable commercial que vous googlez son nom et que vous avez, vous le voyez torché avec des photos de lui torché après des soirées ou dans des situations compromettantes ou autre, vous dites bon, quid du sérieux de la personne? Et donc, est-ce que j'ai envie de lui faire confiance? Et c'est vraiment la première démarche qui est faite. Et donc, ça peut aller très loin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les jeunes et qu'ils comprennent ce que ça implique pour eux demain. Parce que peut-être que ces situations-là, elles ont 4 ans en arrière, mais n'empêche qu'elles sont toujours présentes. Et après, aller recrédibiliser sa réputation, c'est compliqué.
Alors, le recruteur, il cherche uniquement des informations rédhibitoire, ou alors est-ce qu'il peut aussi chercher des informations qui vont conforter le CV et dire oui?
Non, bien sûr, aussi conforter, absolument. Parce que est-ce que la personne en question est présente sur les réseaux sociaux professionnels, via des LinkedIn et autres? Est-ce qu'elle a un blog qu'elle publie sur un domaine ou sur un autre, comme Pierre peut le faire? Est-ce que, voilà, donc on ne cherche pas forcément à savoir évidemment s'il est en situation compromettante, s'il a été en situation compromettante, mais aussi d'une manière générale, tiens, par curiosité, on googlise un nom. Puis on voit ce qui sort.
C'est un genre de sécurité, d'approfondissement du
voilà,
CV.
Voilà, exactement. Et puis, est-ce que le CV, d'ailleurs, est aussi trompeur ou non? Parce que parfois, le CV est un peu enjolivé de manière un peu excessive.
Alors là, on a parlé de les réputations des personnes, mais votre domaine, en tout cas, Maxence Henry et Pierre Leget, c'est aussi pour les marques, pour les entreprises. 3 personnes sur 4 consulteraient les réseaux sociaux avant d'acheter sur Internet, par exemple. Comment est-ce que les marques, les entreprises gèrent, elles, leur réputation sur le web?
Alors tout d'abord, il faut qu'elles soient présentes sur les réseaux sociaux où on va être présent à leur cible. Ça va être le plus important parce que ça va être ici où les consommateurs ou les potentiels consommateurs vont parler de leur marque et poser des questions. Donc le plus important, c'est d'être présent pour avoir un seul et unique endroit où les consommateurs vont avoir envie de parler. Parce que si vous n'êtes pas présent, ils vont parler un peu partout et vous n'arriverez pas à canaliser en fait toutes ces informations. Donc la première chose, c'est être présent pour répondre et interagir avec votre cible.
Pour compléter ce que dit Pierre, qui est par ailleurs très juste, il faut être présent, mais il faut aussi écouter la toile. Alors généralement, ce que l'on constate, c'est qu'ils sont présents, mais ils ne savent pas écouter la toile. Ils ne savent même pas qu'il faut le faire.
Comment on fait pour écouter la toile?
Vous avez en fait un certain nombre d'outils qui vont, dans lesquels vous mettez des mots-clés, dont le nom de votre marque, par exemple, et qui vont vous alerter dès que quelque chose est dit sur votre marque, sur un forum, sur un blog, sur un réseau social ou autre. Et donc, il faut avoir une écoute très, très active de ce qui est dit, parce que parfois... il peut être dit des choses très négatives, mais qu'on ne sait pas, donc forcément on ne réagit pas. Or, c'est souvent ces choses-là d'ailleurs qui font vraiment la réputation de l'entreprise. Et il y a des entreprises qui tombent de haut, parce qu'elles se rendent compte que contrairement aux apparences, où elles ont une apparence tout à fait, j'allais dire clean, eh bien, sur le web, on dit des choses d'elles totalement différentes. C'est vrai, on parle souvent de la marque employeur par exemple. De plus en plus, les jeunes, quand ils veulent postuler dans une entreprise, regarde la réputation de l'entreprise en tant que marque employeur. Est-ce qu'il y fait bon vivre comme salarié? Dans les forums, si on dit au contraire que c'est un peu l'enfer sur Terre, eh ben, bon, mais l'entreprise ne le sait pas forcément parce qu'elle n'écoute pas ce qui est dit sur elle.
Oui, ça c'est vrai, c'est très important. Et le plus important, quand une entreprise est dans cette situation, c'est pas de vouloir masquer à tout prix. Parce que quand on masque, c'est pire que d'essayer d'y répondre. Le plus important, c'est justement essayer de comprendre pourquoi cette personne a eu ce souci et a été amenée à critiquer de cette manière l'entreprise, afin d'apporter une réponse et une solution à cette personne, et donc expliquer à la communauté entière qu'est-ce qu'on peut apporter et essayer de résoudre le problème.
Ça, c'est très important. Pardon, excusez-moi Thibault, mais c'est très effectivement important parce que en fait, on peut tout dire, mais parfois même dans une situation de crise, si on répond déjà, ça calme les choses, mais... Ouais.
Tristan Gastinet.
C'était Tristan.
C'est pas grave. ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est aussi une occasion du coup de. Enfin, les entreprises, je trouve que elles ne pensent pas assez au fait qu'elles peuvent donc répondre. Donc, il faut être à l'écoute. Je suis d'accord. Mais c'est très important. Par exemple, quand on voit une marque sur Twitter dont le community manager répond directement aux internautes qui sont des fois pas très tendre avec elle, mais c'est quand même très important de montrer en fait oui qu'on est à l'écoute, et le fait d'avoir des réseaux comme Twitter par exemple ou les pages Facebook qui permettent réellement d'avoir un échange à double sens, c'est quelque chose qui entre dans les réputations, c'est-à-dire que les gens je pense vont plus apprécier une marque s'ils savent que une partie au final de leur service client, de leur service après-vente, se fait sur les réseaux sociaux, puisque le community manager va répondre.
C'est et qu'on est à leur écoute.
Voilà, ouais. Ils comprennent qu'on est à leur écoute, et ça se voit si on arrive sur la page Twitter, par exemple, d'Air France. Je suis à peu près certain qu'on peut voir des réponses des community managers aux problèmes des clients, etc. Et ça travaille vraiment sur l'irréputation, justement.
Et donc, de l'importance d'avoir un community manager qui soit effectivement formé, d'abord d'en avoir un, oui, et après qu'il soit formé le mieux possible, c'est ce qu'on essaye, nous, de faire à l'IRCOM, mais c'est pour eux, voilà, il y a vraiment ce besoin, et le monde de la PME en prend tout juste conscience. Les groupes souvent sont plutôt bien dotés, ils ont ce qu'il faut, ils ont les outils, etc. Mais le monde de la PME en prend tout juste, et les budgets, et on prend conscience tout juste, et parfois c'est lors d'une crise qu'on découvre la réalité de sa irréputation et qu'on prend après des mesures, parfois un peu tardives, mais mieux tard que jamais.
On va poursuivre cette discussion juste après Father John Misty avec I Love You, Wanna Be Here.
Oh,
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir dans le sous-marin, on parle e-réputation en compagnie de Pierre Leget, chef de projet digital au sein du groupe Findis, Tristan Gastinel, stagiaire community manager à FH Conseil, et Maxence Henry, directeur de l'institut McLuhan de l'IRCOM, l'école de communication, qui dispense donc un master 2 option e-réputation. Alors depuis l'année dernière, Google propose de se reconstruire sa e-réputation en effaçant des résultats peu avantageux de leur page. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire à Google, bon bah ça, alors ils peuvent pas l'enlever apparemment, c'est ça, tout se garde sur Internet.
Alors normalement tout se garde sur Internet, mais là justement ils essayent d'enlever ces informations là. Donc le process est quand même assez long, il y a beaucoup de formulaires à remplir en justifiant pourquoi est-ce qu'on veut enlever telle ou telle information. Et pour le moment ça a surtout été utilisé par des marques plutôt que par des personnes. Mais le processus est assez long et il faut être courageux pour aller jusqu'au bout et donc enlever l'information.
Il faut prouver quoi en fait pour réussir à enlever ces informations-là? D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont retirées ou est-ce qu'elles sont décalées dans les pages de résultats?
Ça, concrètement, je crois qu'on ne sait pas trop. Théoriquement, elles sont retirées, sauf qu'on a toujours un doute qui subsiste. Est-ce que Google retire, Google et les autres d'ailleurs, hein, est-ce qu'effectivement ils retirent totalement du réseau? Ou est-ce que c'est mis dans une petite boîte à côté? Ça, on ne sait pas trop. Théoriquement, c'est retiré, oui. Mais ça, c'est quand même une procédure, effectivement, qui existe tout à fait, qui est possible, mais qui n'est pas la plus utilisée, Pierre le rappelait. Après, il y a des procédures qui sont plus ou moins simples. La plus simple et la plus facile, c'est d'aller noyer l'information par de nouvelles informations. C'est-à-dire que si j'ai, quand je googlise mon nom, si j'ai des informations qui remontent, qui ne sont pas très élogieuses, je vais aller noyer cette information en publiant en permanence des choses plus positives sur moi et sur mon environnement, etc. De façon à ce que quand on va regoogliser mon nom, eh bien, ce qui est peu flatteur se retrouve en deuxième, troisième, quatrième page et donc globalement un peu invisible. Ça, c'est le moins coûteux et le plus simple à faire, même
mais
si c'est long.
Mais c'est simple, mais oui, c'est super long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se créer des nouveaux comptes sur des réseaux sociaux, ouvrir des blogs, ouvrir des sites internet. Comment on fait pour créer du contenu sur soi? C'est ça?
Alors, avec un blog, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus long. Mais c'est vrai que pour une personne lambda, c'est compliqué de se créer un blog, peut-être, et de mettre de l'information, puisqu'il faut avoir quelque chose à dire et quelque chose à apporter.
Alors on peut se déclarer, tout d'un coup se découvrir un peu pseudo-spécialiste d'un sujet ou d'un autre, ou se passionner d'un sujet ou d'un autre, et du coup se mettre à publier énormément sur le sujet, par exemple. Je ne sais pas quel sujet, les 10 ans de Radio Campus, c'est un beau sujet, ça.
Ah, c'est ça, on en reparle la semaine prochaine. Alors apparemment, Google, c'est un peu compliqué, mais on peut aussi saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qu'on appelle entre nous la CNIL. Pour quel motif est-ce qu'on peut saisir la CNIL? Est-ce que c'est plus simple que d'aller voir Google?
Ma connaissance, c'est quand les informations sont erronées.
Diffamantes.
Et diffamantes. Si elles sont justes, mais que ce n'est pas bon pour ma réputation, la CNIL ne fera rien. Par contre, si effectivement elles sont diffamantes, la CNIL peut intervenir pour imposer à la personne qui a posté de retirer.
Donc ça tombe sous le coup de la loi, mais là, ce n'est pas, oui. C'est pas à notre... Selon nous, c'est...
Mais là, c'est quand c'est fait à notre insu.
D'accord.
Quand c'est fait à notre insu, là, on peut, soit par la CNIL, soit par un avocat, c'est plus juridique, à ce moment-là, on va imposer à la personne de retirer ce qui a été dit. Mais quand c'est nous-mêmes qui sommes responsables et un peu gênés de ce que l'on a soi-même posté, là, évidemment, la CNIL ne pourra rien faire. Et donc là, soit on noie ce qu'on venait de dire à l'instant, soit on fait intervenir des agences dont c'est un peu le métier, qui vont agir à plusieurs niveaux, en fait, qui vont effectivement un peu noyer, mais qui vont aussi essayer d'aller intervenir auprès de Google, ou qui ont plein d'autres méthodes, que je ne connais pas toutes bien d'ailleurs, mais qui vont essayer. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est long, et dans ces cas-là, c'est coûteux.
Aussi. Justement, ces agences d'e-réputation, ça fait combien de temps qu'elles fleurissent un petit peu partout?
Je pense que c'est quand même assez récent. Ans, ouais, je pense que ça doit être 3 ans.
C'est devenu un business qui fonctionne bien?
Oui, alors oui et non. Il y a aussi des assureurs qui se sont lancés dans le créneau et qui ont lancé des produits pour assurer sa e-réputation.
Et comment est-ce qu'on peut assurer ça? C'est tout à fait virtuel.
C'est-à-dire qu'en fait, on paye, comme toute assurance, on paye une cotisation quoi, pour le produit. Et le jour où on souhaite pouvoir faire disparaître des informations nous concernant et qu'on a soi-même publié, eh bien, l'assureur s'appuie sur des experts pour faire le travail. Quoi. Ça existe depuis 2 ans peut-être au niveau des assureurs grand public. Ça n'a pas un grand succès encore.
Et ces agences, elles sont sollicitées par des particuliers ou c'est encore des entreprises qui les sollicitent, ces agences-là?
J'ai pas de statistiques, mais je pense que c'est surtout les entreprises, ouais. Parce qu'il y a quelques qui ont vraiment le moyen de se battre là-dessus sur Internet.
Très majoritairement, d'une part, et puis déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de particuliers qui googlisent leur nom, vous voyez.
Ah oui ?
Je pense que ça se fait assez peu. On serait surpris, d'ailleurs, je pense que des personnes elles-mêmes seraient assez surprises si elles le faisaient, de voir ce qui pourrait sortir. Parce qu'on se rend compte que c'est peut-être un peu terrifiant, mais les jeunes, mais pas que les jeunes qui ont 12 ans aujourd'hui, mais même ceux qui en ont 25 ou 30, il y en a quand même beaucoup qui n'ont jamais été formés à cette réalité, et qui ignorent totalement que, sur leur nom, il y a tout ce qui a été posté et mis sur Internet est encore présent et ressort.
Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et que chacun donne quelques conseils aux auditeurs pour justement baliser sa réputation sur Internet ? Voilà, et pas avoir de mauvaises surprises quand on googlise son nom, peut-être commencer par Tristan Gastinel.
Moi, je dirais du point de vue, je parlerais plutôt de mon point de vue à moi, c'est-à-dire un jeune qui cherche du travail et ce genre de choses-là, et qui veut justement faire attention à sa réputation pour pas qu'on tombe sur le blog sur le métal qu'il a fait quand il était en 6e, ce genre de choses-là. Si on veut effacer ce genre de contenu qui n'est pas valorisant professionnellement et qu'on n'a pas envie de voir, je pense que c'est quand même une technique à laquelle on ne pense pas forcément, mais tout simplement envoyer un mail au webmaster du site qui a publié ça, parce que c'est souvent des choses qu'on a fait il y a plusieurs années, donc on n'a plus les mots de passe et tout ça, c'est un peu compliqué de le faire soi-même, mais quand on arrive juste comme ça à convaincre en fait le webmaster que voilà, c'est ça, on aimerait bien l'enlever et tout, bah, moi c'est ce que j'ai fait en fait au début, dans le DUT que j'avais fait à Bordeaux, ils nous avaient fait une espèce de petite formation sur les bonnes pratiques de e-réputation, donc ils nous ont conseillé par exemple de nous créer deux comptes Facebook, un avec nos vrais amis et puis éventuellement nos photos de soirée et tout ça, et pas notre vrai nom, et un autre avec notre vrai nom et notre vrai nom de famille et des amis, mais un compte qui est propre et qu'on trouve tout simplement et qui sert entre guillemets de leur en fait. Et actuellement là, si un employeur cherche Tristan Gastinel sur Facebook, il va tomber sur ce compte là qui est
il vaut mieux pas voir l'autre compte alors.
C'est pas qu'il vaut mieux pas, il est pas non plus très très dérangeant, mais disons que au moins l'autre, vu que c'est un compte factice, on sait que il est, enfin je suis certain qu'il y a absolument rien de compromettant dessus, et vu que la personne qui éventuellement nous chercherait tombera là-dessus, elle va pas aller chercher plus loin. Mmh. Alors que si elle tombe sur rien,
absolument,
eh ben peut-être qu'elle ira creuser un petit peu plus. Et comme je disais, c'est assez facile à retrouver, malgré un pseudo, si on cherche.
Mais
si on
cherche pas... Ce que d'être intéressant par rapport à la première remarque qu'il disait, c'est effectivement tout simplement contacter le webmaster, parce que souvent, les gens sont pas de mauvaise volonté, donc ils le font bien volontiers. Mmh. On n'y pense pas forcément, c'est très juste.
Ouais.
D'autres conseils à ajouter, peut-être Pierre Leget ?
Oui, alors moi, mon conseil, ce serait l'utilisation d'un outil qui s'appelle Google Alert, qui permet en fait de référencer des mots-clés sur lesquels on souhaite avoir un mail dès qu'on parle de ce mot-clé-là. Et donc, comme premier mot-clé, moi ce que j'ai mis, c'est Pierre Leget, mon nom, mon prénom. Dès qu'on parle de moi sur Internet, je reçois un mail et je peux voir si c'est un article sur les réseaux sociaux, une photo ou autre. Et je vois l'information et je peux la contrôler, la gérer rapidement.
Ça n'a pas disparu, Google Alert ?
Non, Google Alert est toujours présent, mais c'est vrai qu'il est en train de fermer. Enfin, ils vont arrêter de l'entretenir.
D'accord.
Oui, c'est ça, ils l'entretiennent plus. Et moi, ce que je dirais, c'est un peu ce que j'ai dit tout au début, la meilleure des choses, c'est toujours de se poser la question, est-ce que ce que je vais poster, ce que je vais mettre en ligne, j'ai envie que le monde entier le sache et le voit. C'est imparable. Si je me dis, j'ai quand même pas super envie qu'un tel et un tel le voit, à ce moment-là, je le fais pas, quoi. Mais si je me dis, ok, moi, ça me dérange pas que le monde entier le sache parce que, voilà, c'est clean, et à ce moment-là, on y va.
Et en tant que recruteur, Maxence Henry, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que vous aimez bien voir apparaître quand vous googlisez un nom ? Réseaux sociaux où il faut être...
Après, oui, il y a les réseaux sociaux professionnels, mais comme on recrute, nous, des jeunes qui sont plutôt en Bac+3, ils ne sont pas encore dessus ou rarement dessus, parce que c'est encore un peu tôt, via Deo, LinkedIn, par exemple, pour ne citer qu'eux. Par contre, ils seront évidemment tous... pas tous, mais très nombreux sont sur Facebook ou sur Twitter, ou d'autres. Moi, ça m'est un peu égal. Ce qui m'importe, c'est de savoir s'ils y sont et quelle est leur histoire dessus, quoi, en fait, quelque sorte. Et savoir si, évidemment, ils veulent faire la spécialisation et réputation, c'est quand même mieux qu'ils aient des réseaux sociaux qui soient un peu actifs.
Et un peu propres.
Et un peu propre.
Merci beaucoup Maxence Henry, Pierre Leget et Tristan Gastinel d'avoir été dans le sous-marin ce soir, et puis faites attention à votre e-réputation.
Merci.
Merci.
C'était Myopie de Panda Dub.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Cette semaine à Tunis, c'est la 13e édition du Forum Social Mondial et figurez-vous qu'il y a des Angevins sur place. Nous avons donc téléphoné à Pierre Cerciron de la délégation régionale présent à Tunis. Bonjour Pierre Cerciron.
Bonjour Tiffaine.
Vous faites partie de la délégation régionale qui est actuellement à Tunis pour le Forum Social Mondial. Vous-même, vous faites partie d'Attac France. Première question, donc le Forum Social Mondial qui se déroule à Tunis toute cette semaine, une semaine après l'attentat au musée Bardot aujourd'hui, quelle est l'ambiance sur place ?
Eh bien, l'ambiance est très bonne. C'est sûr que les attentats qui se sont déroulés la semaine dernière ont eu un impact, sont présents. Après, l'objectif c'est aussi, et on en est très heureux que ce soit pas le seul sujet de discussion et de préoccupation, parce que le Forum Social Mondial est bien une rencontre internationale de la société civile, des mouvements sociaux, et donc bien sûr tout le monde condamne et est triste de ce qui s'est passé au musée du Bardot la semaine dernière. Mais au-delà de cette condamnation, on est aussi là pour porter des choses et notamment travailler sur les questions également économiques et sociales et ne pas non plus se laisser uniquement mobiliser par cette question-là.
Mais juste, est-ce que ces événements de la semaine passée alimentent les conversations à Tunis ? Est-ce qu'ils ont perturbé l'organisation de ce Forum Social Mondial ?
L'organisation a dû être adaptée, en effet, d'une part témoigner la solidarité des citoyens de toute la planète qui sont venus par le fait que la marge d'ouverture, par exemple, a vu sa route déplacée, et donc au final finissait au musée du Bardo pour exprimer cette solidarité avec les victimes des terrorismes. Différents types de terrorisme qui peut exister, mais c'était aussi une marche pour l'égalité, la solidarité, la liberté, tel qu'on les voit à tous les forums sociaux.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, là, le Forum Social Mondial, c'est un espace de débat, un espace de réflexion avec de nombreux réseaux, des ONG, des mouvements sociaux qui s'opposent au néolibéralisme. En fait, concrètement, à quoi ça sert le Forum Social Mondial? C'est la 13e édition cette année.
Alors c'est avant tout un espace de rencontre, le Forum Social Mondial, de toutes ces actrices et ces acteurs des cinq continents qui affirment qu'un autre monde est possible, qui au quotidien mènent des luttes, mettent en place des initiatives, des alternatives au système actuel, à la mondialisation libérale, etc. Donc un espace de rencontre pour faire avancer la réflexion, la discussion, pour croiser aussi ces différentes alternatives et luttes d'un point de vue thématique et aussi d'un point de vue géographique, ce qui permet de coordonner ces différents mouvements, de créer du lien et ensemble d'aller plus loin à la fois dans la réflexion mais aussi dans les alternatives et les luttes qui peuvent être menées.
Est-ce que, à mi-parcours là, de ce Forum Social Mondial, vous pouvez nous dire actuellement quels ont été les sujets qui ont été abordés ces deux premiers jours, quels sont les sujets au cœur des débats?
Alors, pendant ces 4 jours de Forum Social Mondial, il y a à peu près 1000 ateliers en tout. 1000 ateliers qu'organisés à chaque fois avec plusieurs organisations, souvent de pays, voire de continents différents. Donc c'est très très large et il y a eu un effort de regroupement de ces ateliers en grand espace. Donc il y a un espace climat, il y a le Forum Mondial des Médias Libres également, il y a le Forum Mondial Sciences et Démocratie, on a une place de l'égalité, une place des droits et contre les discriminations. Donc à l'intérieur de cet énorme village que le Forum Social Mondial, on va trouver des espaces et dans chacun de ces espaces, on a des ateliers sur des créneaux de 2h30 et à chaque fois il y a une cinquantaine d'ateliers, si ce n'est une centaine, qui se déroulent en parallèle. Donc les thématiques sont extrêmement larges et sont à l'image des différents mouvements qui existent à travers la planète.
Combien s'il y a de personnes sur place?
Dur pour le moment d'avoir une estimation, il y a du monde partout. Au dernier Forum Social Mondial en Tunisie, il y avait 70 000 personnes. Je sais qu'on en attendait pour cette année 80 000. Je pense qu'on n'est pas loin des 80 000. Est-ce qu'il y en a un peu plus, un peu moins de 80 000, difficile à dire, mais une affluence qui est vraiment très très importante, y compris à la marche d'ouverture qui a duré 3 heures malgré la pluie qui est tombée toute la journée.
80 000 personnes au maximum, a priori, d'après vos estimations. Est-ce que vous trouvez que le Forum Social Mondial, on en parle suffisamment, en tout cas en France actuellement, par rapport à la masse de personnes qui est réunie à Tunis?
Non, je pense qu'actuellement la couverture médiatique de cet événement, de par son importance numérique en nombre de personnes et de son importance aussi pour les mouvements, pour les combats d'idées, est totalement sous-représentée dans les médias français. Il y a eu quelques articles sur la marche d'ouverture sans même mentionner ce Forum Social Mondial, tandis que chaque année, lors du Forum Économique Mondial, qui est un petit peu le contre-Forum Social Mondial, tous les médias couvrent cet événement, qui est une rencontre des patrons et des chefs d'État, tandis que quand ce sont les mouvements sociaux, les mouvements associatifs, syndicaux qui se rencontrent, c'est sûr qu'on n'a pas la même couverture médiatique et c'est quelque chose qui est extrêmement regrettable. Cette absence de lumière faite sur cet événement extrêmement porteur d'alternatives.
Pierre Cercieron, vous êtes sur place, on l'a dit tout à l'heure, avec la délégation régionale. Donc il y a ATTAC, évidemment, il y a la CASI, la coordination des associations de solidarité internationale de Maine-et-Loire, la coopérative SEMER, l'association des petits débrouillards, il y a d'autres acteurs, bien sûr. C'est quoi le rôle de cette délégation régionale sur place?
Donc le rôle de la délégation régionale avant le Forum social mondial, c'était déjà de faire rencontrer ces acteurs d'associations, de mouvements différents pour créer également une dynamique à l'échelle de la région et des départements. Donc dans le Maine-et-Loire, par exemple, plusieurs associations et mouvements ont pu travailler ensemble à la préparation. Sur place, les participants mènent différentes activités. De mon côté, par exemple, je suis plus sur les activités médias et notamment radio. On est en train de créer des reportages sur ce Forum social mondial. Il y a des temps réguliers de rencontres des personnes qui viennent des Pays de la Loire pour mettre en commun les différents ateliers auxquels ils ont pu assister. Et au retour, on s'attachera à pouvoir faire une soirée de restitution de témoignages autour de cette dynamique et autour de notre participation à ce Forum social mondial.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, Pierre Cerciron, ce que vous allez ramener justement de ce Forum social mondial concrètement? Est-ce qu'il y a des initiatives dont vous avez pris connaissance là à Tunis et que vous allez pouvoir importer entre guillemets à Angers en France? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont enrichi et qui vont vous resservir là?
Donc chaque personne va ramener quelque chose de différent. Moi, de mon côté, je vais ramener des émissions de radio qui pourraient être diffusées sur Radio Campus. Là, en ce moment, je m'intéresse à la question grecque parce qu'il y a notamment ici beaucoup de mouvements sociaux qui travaillent sur la question de la dette, sur la question de l'austérité. En Europe, on a un scénario qui a évolué depuis 2 mois avec un gouvernement anti-austérité qui remet en cause la dette qui est au pouvoir. Donc voilà, moi je suis par exemple en train de réaliser un reportage sur cette question-là, qui pose la question de l'alternative pour les différents pays d'Europe, donc territoire d'Europe, y compris le Maine-et-Loire, et de comment aussi dans chaque territoire on peut servir cette alternative et témoigner de notre solidarité avec le peuple grec qui est le premier peuple d'Europe à se lever en nombre comme ça contre l'austérité et à passer vers des alternatives.
Des éléments de réflexion donc à votre retour de Tunis que vous allez infuser comme ça sur le territoire angevin.
Exactement.
Merci beaucoup Pierre Cerciron d'avoir été au téléphone avec nous, puis on vous souhaite une bonne fin de Forum social mondial.
Merci beaucoup à vous pour votre intérêt.
Shake me now, don't wake me, give me one good reason to believe.
C'était Vagina Town avec Calm Down. Vagina Town qui sera à la Péniche le 2 avril dans le cadre des 10 ans de Radio Campus Angers.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, c'est la soirée Wild Valley Records au bar du quai à partir de 21h30 avec un concert de Death Gazer et un concert de Scarlett. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Tous les mercredis soirs, pas de panique, distille ses bons conseils geeks. Hier, c'était une spéciale smartphone. Clavette nous a livré quelques noms d'applications pour pécho.
La deuxième appli qui marche beaucoup en ce moment, c'est Happn, et c'est le concurrent direct, donc ça s'écrit H-A-P-P-N.
D'accord, voilà. Un peu comme un happening ou tout.
Ouais, happen. Voilà, mais en raccourci, quoi.
D'accord.
Et ça fonctionne exactement sur le même principe que Tinder, sauf que c'est, bah, par contre c'est français, du coup, c'est un réseau social français. Je sais pas si ça marche à l'étranger, mais... Et donc c'est le même principe, à savoir le t'es belle ou t'es moche, quoi, mais qui vous montre des profils des gens que vous avez croisés vraiment dans la rue, quoi. Donc en gros, ils misent sur la fille canon que vous croisez tous les matins dans le bus, et plutôt que de lui demander si elle aime les meuporgues, Happn vous permet de lui mettre un petit like ou de lui envoyer un charme supplémentaire pour jouer des coudes si jamais vous avez pas fait une bonne impression, quoi. C'est ça le but du truc. Et bien sûr, du coup, tu peux payer pour obtenir plus de charme, etc. Remonter ton profil et tout ce genre de truc qui va avec le freemium. Quoi.
Mais tu peux pas lui demander si elle aime le meuporg.
Bah, tu peux pas lui parler directement, en fait.
Mais où est l'intérêt?
Bah, pas tout de suite. Il faut d'abord qu'il y ait un match, en fait.
Bah oui, mais si elle aime pas les meuporgs, aucun intérêt.
Aucun intérêt si elle aime pas les meuporgs. Vous pouvez réécouter toute l'émission Pas de panique sur le www.radiocampusangers.com. Et dans un instant, dès 20h, vous retrouvez une rediffusion de l'émission de Groupe Locaux Turbulence. Merci à Thomas, merci à Raoul pour la réalisation. On se retrouve lundi pour le début de la super semaine de Radio Campus Angers. On l'entamera à midi, en direct et en public, à partir de la cafétéria L'Escale sur le campus de Belle-Beille. Allez, venez nous dire bonjour. Passez une très bonne soirée d'ici là, à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.